Bonjour, je suis Hélène Guichard, je suis égyptologue et conservateur au département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre.
Donc Champollion, ce n'est pas par hasard au Louvre en ce moment, au Louvre-Lens?
Non, c'était quasiment un devoir moral pour nous de rendre honneur à Champollion, puisque finalement c'est grâce à lui que nous sommes là. C'est grâce à lui que le Louvre conserve une collection égyptienne aussi magnifique. Et donc voilà, la grande fête des hiéroglyphes, cette grande fête des sciences humaines, de la science dans toute sa splendeur qui a dévoilé finalement cette Égypte ancienne qui nous occupe tant, c'est nécessairement pour nous le moment de lui rendre honneur et de célébrer ça.
Donc qu'est-ce qu'on met à l'honneur aujourd'hui par rapport à cette date, et puis qu'est-ce qu'on aurait pu aussi prendre comme date de l'histoire de Champollion qui aurait pu être considérée comme marquante et peut-être feront l'objet d'autres expositions?
Alors, les dates marquantes de la vie de Champollion, bien sûr, celle à laquelle on pense tous et qu'on a tous en tête, c'est 1822, 14 septembre 1822, quand après des années de travail, le déclic se fait dans son esprit et il comprend enfin quel est le système intellectuel sur lequel repose l'écriture et la langue hiéroglyphique. Donc 13 jours plus tard, le 27 septembre 1822, il donne lecture devant l'Académie de sa fameuse lettre à Monsieur Dacier, où il expose à ses collègues, aux savants, aux érudits, au monde entier finalement ce coup de génie qu'il a eu et qui est le fruit finalement de tout un long processus de travaux, les siens d'abord et puis ceux de ses prédécesseurs, parce qu'il a eu beaucoup de maîtres et aussi de concurrents. Et finalement, c'est lui qui a fini par comprendre le système et nous permettre de comprendre l'Égypte ancienne.
On peut peut-être parler de la concurrence, pourquoi pas de grands pays de l'époque aussi, l'Angleterre, non ?
Oui, le meilleur ennemi de Champollion était Thomas Young, lui aussi un génie à sa manière, absolument touche à tout, capable de percer s'il en était un le mystère que finalement Champollion a réussi à percer avant lui. Et Young admet sa défaite et lui aussi salue les travaux de Champollion et le coup de génie qui lui a permis de finalement le coiffer au poteau.
Donc les hiéroglyphes ne sont pas utilisés, même en Égypte, par tout le monde. Qu'est-ce qu'ils permettent d'expliquer et qui les utilise pour présenter quoi de la société égyptienne ?
En grec, le mot hiéroglyphe, ce qui est arrivé jusqu'à nous, ça signifie texte sacré gravé. Donc c'est vraiment l'écriture sacrée, l'écriture des prêtres, l'écriture des textes religieux, l'écriture des temples, des tombes. C'est celle qui est finalement réservée à une petite élite. Il ne faut pas croire que tous les Égyptiens anciens maniaient les hiéroglyphes aussi bien que les prêtres ou les rois. Et c'est pour ça d'ailleurs que cette écriture, même si elle a perduré tout au long de la civilisation égyptienne, a cohabité avec des écritures plus cursives, plus manuelles, le hiératique d'abord, qui était finalement l'écriture de l'administration, l'écriture administrative, l'écriture de tous les jours, celle qui permettait de rédiger une lettre, d'écrire un contrat, de faire une commande. Voilà, donc ça, c'est la langue, l'écriture plutôt du peuple égyptien, c'est le hiératique qui va petit à petit se transformé à son tour en démotique aux époques les plus récentes de l'histoire égyptienne.
Alors, qu'est-ce qui fait que les hiéroglyphes aient été complètement, pas oubliés, mais incompréhensibles pendant autant de temps, alors qu'ils ont été d'une certaine forme de fonctionnalité ?
Alors, je crois que d'abord, c'est le temps qui a fait son œuvre. C'est vrai que nous, quand on considère, par exemple, le grec et le latin, qui, on ne va pas dire qu'ils sont encore présents tous les jours dans nos vies quotidiennes, mais qui ont encore une importance exceptionnelle dans nos sociétés contemporaines, ce sont des langues mortes, on ne les parle plus, mais en revanche, ce ne sont pas des langues perdues, c'est-à-dire qu'on n'en a jamais perdu la compréhension et la pratique, finalement. Et la différence des hiéroglyphes, de la langue hiéroglyphique, c'est que la langue s'est perdue. C'est-à-dire que la dernière inscription hiéroglyphique, à un moment où elle n'est plus pratiquée que par quelques spécialistes, en Égypte, c'est en 394 de notre ère, dernière inscription hiéroglyphe sur le temple de Philae. Et à partir de là, les derniers tenants de cette écriture disparaissent les uns après les autres et la langue se père. Alors, elle survit d'une certaine manière dans sa dernière transformation, son dernier avatar, qui est le copte, la langue liturgique des chrétiens d'Égypte. Alors, il y a encore évidemment beaucoup de coptes en Égypte, mais qui, dans la vie de tous les jours, parlent l'arabe. Le copte, qui est donc c'est vraiment l'aboutissement dans le temps de la langue des anciens Égyptiens, continue d'être utilisé pour la liturgie chrétienne en Égypte.
Alors, du temps de Champollion, on parlait beaucoup de l'Égypte, et même avant aussi. Hein. Est-ce que ce n'est pas la représentation de l'Égypte de cette époque-là, un peu comme le Disneyland ? Vous voyez ce que je veux dire ?
À l'époque de Champollion, enfin avant Champollion en tout cas, l'Égypte est bien sûr connue, mais l'image qu'on en a en Europe, en Occident en général, est une image déformée. Une image déformée pour plusieurs raisons, parce qu'elle est passée dans les mémoires et dans les traditions à travers le prisme et le filtre des Grecs, puis des Romains, des auteurs classiques qui n'ont comprenait déjà plus complètement toute la substance. Et puis, la Bible est passée par là. Hein. L'Égypte biblique, c'est devenu une image, une icône, une image d'Épinal, même on en expose dans l'exposition Champollion. Toutes ces perceptions-là ont fini par créer une image déformée, et pourtant bien, bien vivante, alimentée par quelques voyageurs, enfin des explorateurs, des aventuriers qui partaient en Égypte, parce que l'Égypte n'était évidemment pas à la portée de tout le monde, qui rapportait quelques objets, quelques œuvres, des chroniques, des récits de voyages. Et tout ça a contribué à former l'image d'une Égypte fantasmée, d'une Égypte à la fois gréco-romaine et biblique, qui finalement ne convenait pas à Champollion, parce qu'il considérait, et il avait raison, que ça n'était pas la véritable Égypte, son Égypte, comme il disait.
Donc entre les historiens et, on va dire, les politiques, sinon les religieux, chacun essayait de mettre un peu la main là-dessus.
Oui, parce qu'en effet, l'Égypte, c'est aussi pour l'Église le pays de Moïse, le pays de Joseph, le pays de la fuite en Égypte. Donc l'Égypte a une place importante dans aussi bien l'Ancien Testament que le Nouveau Testament, et pour l'Église à l'époque moderne, il n'était absolument pas question de risquer de remettre en cause les statuts sacro-saints, par exemple, de la chronologie biblique. Et donc l'Église était très inquiète des travaux scientifiques d'un Champollion, parce qu'elle redoutait que ce sur quoi, enfin ses fondements en fait, soient remis en cause. Ce qui finalement n'a jamais été le cas, et ce qui a facilité la vie de Champollion une fois que le pape Pie XII, comprenant l'intérêt de ses travaux et l'absence de risque, l'a finalement soutenu et même protégé.
Donc dans l'Égypte ancienne, on parle beaucoup d'esclavage, ne serait-ce que pour monter ces statues, etc., trouver les moyens de construire. Alors, est-ce que c'est un mythe ou une réalité ?
Oui, alors je vais pas aller complètement dans votre sens. Dans l'Égypte ancienne, le concept même d'esclavage, au sens romain du terme, n'existe pas. En revanche, on a des ouvriers qui appartiennent à l'administration royale et qui sont rémunérés pour leur travail. Je ne vais pas vous dire pour autant qu'ils étaient forcément très bien traités. Je pense aux ouvriers qui ont construit les pyramides, aux ouvriers qui ont construit les temples divins ou royaux. Effectivement, c'était des travaux extrêmement durs, mais ces ouvriers, qui faisaient partie de la population égyptienne, étaient payés, souvent logés, blanchis, nourris, etc. Donc ça, premier côté, c'est ces ouvriers vraiment qui sont payés par l'institution royale. Et de l'autre côté, on a évidemment ce qui pourrait éventuellement s'apparenter à une forme d'esclavage, les prisonniers de guerre. Donc en effet, les prisonniers de guerre pouvaient être commis à des travaux pénibles. Mais l'idée d'esclavage qui a encore la vie dure dans nos mentalités contemporaines par rapport à l'Égypte, elle vient aussi de la Bible et de l'histoire des Hébreux réduits en esclavage par Pharaon. Il faut considérer ça avec quand même beaucoup de prudence. Et là, on est plus sur le statut finalement des prisonniers de guerre que sur l'esclavage au sens véritablement romain du terme.
Donc, dans cette exposition qui a pour titre « Champollion, la voie des hiéroglyphes », qui dure jusqu'au 16 janvier, forcément, il y a eu besoin de présenter les choses d'une certaine manière. Et pour présenter les choses de cette manière-là, vous avez fait appel à un grand spécialiste.
Ah oui, ça, nous avons eu la chance de bénéficier du scénographe du musée du Louvre-Lens, Mathis Boucher, qui nous a fait une exposition formellement et esthétiquement magnifique. Parce que vous avez finalement une exposition, c'est, je dirais, un quart de discours, l'histoire qu'on veut raconter aux visiteurs, un quart de choix des œuvres, évidemment. Et puis un énorme quart de scénographie, de mise en scène, d'agencement des œuvres, du parcours, des couleurs. Et autre point vraiment important dans ces expositions, c'est la mise en lumière, l'éclairage qui ici a été assuré par Grégory Mortelette et son équipe du Louvre-Lens également, et qui magnifie littéralement les collections.
Alors Mathis Boucher, bonjour.
Bonjour.
Donc vous avez eu cette responsabilité de mettre en visibilité un certain nombre d'œuvres assez importantes. Il y en a de toute taille et puis de plusieurs époques. Comment on fait les choix de mettre en perspective certaines œuvres avec peut-être des tableaux, avec des statues, avec des choses particulières? Comment on fait ce choix?
Alors on fait ce choix surtout avec les commissaires qui nous donnent en fait ce qu'on appelle un synopsis avec un chemin de fer où chaque œuvre est définie dans une salle. Et donc avec ces œuvres dans ces salles, on a aussi les rapprochements qu'on doit faire entre deux heures, entre trois heures, les regroupements par vitrine. Et donc, avec ce travail et ces commissaires, on peut commencer à mettre en perspective une certaine œuvre et tout. Et c'est un travail commun avec les commissaires d'exposition.
Comment on jongle avec l'aspect, une salle, un thème, par exemple, et puis l'aspect nombre de pièces à présenter dans un espace qui est grand, mais quand même limité?
Alors, pour ces choix-là, en fait, on a un espace hyper modulable. Donc, si dans une pièce, on a 100 œuvres, la salle va être beaucoup plus grande que si on en a 50. Après, tout dépend du format des œuvres. Si on peut avoir 100 pièces, mais 100 petites statues, et on peut avoir 50 œuvres, mais qui sont des grands tableaux de 4 mètres de long. Donc, ça ne va pas être la même chose. Mais ce choix se fait aussi par l'intérêt aussi de la salle. Donc si l'intérêt de la salle est pour la médiation est plus importante, la salle sera plus importante pour que les visiteurs puissent rester dans cette salle, pour que les groupes puissent cohabiter ensemble. Donc c'est un savamment jeu entre les commissaires, les œuvres, la médiation. Et après, on a aussi, on n'en pense pas, mais tout ce qui est pour amener les œuvres en salle. Il faut qu'on ait vraiment les passages, les unités de passage les plus adéquats. Ensuite, on a la sécurité des personnes, la sécurité bien. Donc, les pièces doivent être suffisamment grandes aussi pour ces aspects-là.
Alors, quand on a vos compétences, elles viennent d'où? Vous avez beaucoup appris dans les écoles ou vous avez beaucoup regardé ce qui se faisait ailleurs, par exemple?
Alors, moi, je suis titulaire d'un master en architecture que j'ai fait à Tournai, à Saint-Luc. J'ai beaucoup appris, en fait, je suis arrivé au musée du Louvre-Lens il y a 6 ans et demi et j'ai tout appris ici avec Clio Caragiorgis et Michel Antonpietri avec ma première exposition sur les frères Lenain il y a 6 ans. Et ensuite, on apprend aussi en allant dans d'autres musées, en regardant ce qui se fait, mais après, ça reste une architecture avec des pièces, des salles, des ambiances, mais une architecture plus éphémère vu que ça ne dure que 4 mois.
Est-ce que l'exposition, telle que vous l'avez mise en espace, est un voyage initiatique, d'une certaine manière, qui peut rejoindre les préoccupations des archéologues?
Alors, la scénographie se veut toujours comme un voyage scénographique, comme une parenthèse enchantée pour les visiteurs qui se sentent transportés dans un autre univers, dans un autre lieu. Ils sont toujours émerveillés par la beauté des salles suivantes, avec des perspectives, des jeux de perspectives, des jeux d'ambiance, des jeux de cachet ouvert, avec des petites salles, des grandes salles. C'est vraiment un jeu avec beaucoup de surprises pour que le visiteur soit toujours émerveillé de salle en salle, sans qu'il soit lassé par la beauté des œuvres et par le discours.
Alors, moi, mon grand regret au Louvre-Lens, c'est qu'il n'y ait pas grand-chose, sinon rien sur la Chine de la même époque. Par contre, on peut imaginer ce passage d'une salle à l'autre, avec ses perspectives, avec ses surprises, un peu comme les jardins chinois.
Alors, la notion de seuil, c'est très important. dans le travail d'un architecte. La notion de seuil est très importante aussi dans l'architecture japonaise ou chinoise, asiatique. Et donc, le seuil est très important. On marque toujours d'un passage, d'une section par une porte, par un seuil, comme on a pu faire. Alors là, c'est différent pour l'exposition Champollion, vu que chaque salle est d'une couleur différente. Mais par exemple, dans l'exposition Rome, on avait toute une grande partie blanche. Et là, on pouvait se demander où étaient les sections. Et en fait, c'était le passage des portes qui indiquait la notion de changement de section.
Alors, au Louvre-Lens, on est beaucoup habitué, par la grande salle, à une lecture chronologique de l'histoire. Est-ce que dans ce parcours, il y a aussi une notion de chronologie ou plutôt de thématique ?
Alors, dans notre exposition, oui, la chronologie, bien sûr, est respectée dans la mesure où l'exposition s'ouvre sur les années de jeunesse et de formation de Champollion et se termine avec sa mort prématurée à l'âge de 41 ans et l'héritage intellectuel et j'allais dire presque affectif qu'il a laissé. Mais entre ces deux bornes-là, on a un parcours plutôt thématique qui s'attache à évoquer tout le contexte culturel, intellectuel, politique, religieux, diplomatique dans lequel Champollion a évolué et qui a précédé tout ce processus de déchiffrement des hiéroglyphes. Et puis, donc, on a la grosse section centrale qui est consacrée justement à l'histoire du déchiffrement et puis à l'explication de la langue égyptienne et de ses différentes écritures.
Voilà, eh bien, merci de permettre au public d'appréhender toutes ces choses parfois un peu mystérieuses et qu'on doit forcément aussi faire l'effort de déchiffrer.
Merci à vous et venez visiter cette belle exposition.